Salut, c'est Michidar. Dans le dernier épisode de Stucom, le Stucom spécial Aladdin, j'ai donc reçu Alexis Loison pour chanter et pour discuter aussi. Notre entretien a été beaucoup plus long que ce que vous avez entendu pendant l'émission. Le voici en entier avec quelques extraits de ce que fait Alexis.
Alors, bienvenue dans ton fréquence star. Est-ce que je peux te tutoyer? Là, tu vas faire une rencontre, j'ai envie de dire, qui va changer ta vie.
Donc, Alexis, c'est bon, on peut se tutoyer ?
Ouais, ça va, c'est bon.
Parfait. Alexis, donc, on s'est rencontrés dans ton ancien lycée, il y a de cela quelques années, où tu venais présenter le métier d'acteur, en fait, à tes anciens... Non, c'est pas tes anciens élèves, du coup, ça marche pas. C'est les élèves de ton ancien lycée, c'est bien ça ?
C'est exactement ça, ouais.
Et du coup, on a échangé nos numéros de téléphone et nos contacts et on s'est dit qu'un jour, on serait probablement amené à faire des trucs ensemble. Et te voilà donc aujourd'hui, donc dans l'émission Stucom, on t'a invité à venir faire un petit peu des choses autour d'Aladdin. Mais avant d'aller plus loin dans Aladdin, tu peux déjà nous parler un petit peu de toi, ton actualité, les choses que tu fais, parce que si on a mis le jingle Laurent Boyer, c'est qu'il y a une raison.
Et j'en suis particulièrement flatté. Quoi dire ? Quand on s'est rencontrés, moi j'étais à l'affiche du spectacle de la comédie musicale Grease qui se joue au théâtre Mogador.
Sandy !
Tell me about it, Steph.
Ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire pas mal de télé, de jouer dans plusieurs séries. Ensuite, il y a eu le Covid, qui est une parenthèse de 2 ans pour la planète entière. Et entre-temps, j'ai ouvert une boîte de production parce que je suis passionné par ce métier. Et je ne veux pas juste en être acteur, sans mauvais jeu de mots, mais aussi, je veux aussi en être chef d'orchestre sur certains projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Et comme je savais que forcément, dans la configuration culturelle dans laquelle on est des fois en France, il y a certains projets qui ne verraient jamais le jour. Et moi, je voulais absolument les faire naître. Donc voilà pourquoi je me suis attelé à ouvrir une boîte de production et en toute humilité, en respect vraiment de mes pairs et des gens qui sont là depuis bien plus longtemps que moi dans ce secteur de la production.
Alors pour faire plaisir à Ego, tu vas pouvoir nous parler d'un des spectacles dont tu participes à la production.
Un des spectacles dont je participe à la production avec Naria Productions et la comédie musicale Je vais t'aimer qui est...
Ça me dit quelque chose.
Oui, c'est un Mamma Mia à la française qui est avec un livret, une histoire originale basée autour des plus grands succès de Michel Sardou.
Ah, voilà, le point Sardou de l'émission, déjà.
C'est le point Sardou. On y vient, c'est incontournable.
Toujours.
Et bien, fort de son succès et... Après avoir vu la réaction de tous les zéniths de France aux chansons de Michel Sardou, je peux vous confirmer que oui, Michel Sardou est incontournable en France.
Oui, je sais, mais il va falloir. Le Stucom Sardou, il est sur les rails, il arrivera forcément. Je sais que je vais être obligé de le faire et je sais que ça va faire plaisir à mon comparse. Il y a autre chose aussi, c'est que je ne te l'ai pas demandé, hein, on a passé une bonne partie de la journée ensemble, mais il y a une question que j'ai gardée pour cette interview. Est-ce que tu as le droit contractuellement de dire du mal de Disney?
Je crois, oui. Je crois que, par exemple, j'ai le droit de dire du mal de Disneyland. Ah. J'ai le droit de dire du mal de Disney Channel. J'ai le droit de dire du mal... Non, je sais pas, franchement, j'en sais rien du tout. J'ai le droit de donner mon avis, mais ils sont bien tombés avec moi, Disney, parce que j'ai pas grand-chose de mal à dire sur Disney. Je trouve que c'est... C'est une boîte de production progressiste. Oui, c'est le symbole même du capitalisme, mais moi, pour moi, Disney, c'est plus une Madeleine de Proust. Enfin, voilà comment est-ce que je vois Disney, comme une Madeleine de Proust plutôt que l'empire méga tentaculaire que c'est aujourd'hui.
Et puis, c'est aussi grâce à eux qu'on a des films et des dessins animés dont on parle aujourd'hui, là, maintenant.
Oui, au final, oui.
C'est important pour nous, pour notre culture. Enfin, moi, je sais que tellement de choses qui viennent des studios Disney, ne serait-ce qu'en dessin animé ou en comédie musicale. J'aborde ce sujet-là, puisque tu n'en as pas parlé, mais tu as joué dans La Belle et la Bête, donc le film qui est une adaptation en live action avec des vrais acteurs du dessin animé La Belle et la Bête, mmh, par Disney. Et ce qui t'a mené à jouer donc dans ce film, c'est parce que, en fait, tu étais le Gaston, mmh, de la comédie musicale La Belle et la Bête quand elle a été faite en France. C'est bien ça ?
C'est bien ça, oui. Et puis, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on se tutoie. Hein. comme tu l'as mentionné tout à l'heure, en fait, Disney, c'est plutôt... les Disney d'Alan Menken qui m'ont donné envie de faire de la comédie musicale, parce que ce soit La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin, tout est monté comme un méga show de Broadway, en fait. Mmh. Techniquement, au niveau de l'histoire, tout est fait comme une super comédie musicale. Et en fait, c'est plutôt Disney qui m'a donné l'art de la comédie musicale plutôt que les spectacles musicaux en France que je respecte et beaucoup que j'aime.
Qui sont pas faits de la même manière.
Et qui sont pas faits de la même manière. Il y a pas cette, théâtralité. Il y a pas d'enjeu narratif aussi développé que dans les comédies musicales anglo-saxonnes dont sont inspirées toutes les œuvres de Menken. Oui, en fait, moi j'avais un rêve quand j'étais petit. Enfin, pas quand j'étais petit. En fait, quand j'étais petit, j'avais une obsession. C'était Disney. C'était La Belle et la Bête. Et c'était Gaston. C'est vrai. C'était le personnage de Gaston.
Le plus
c'était
beau, c'est Gaston.
Le plus beau, c'est Gaston. Le plus fort, c'est Gaston. Depuis que je suis petit, en fait, ce personnage me fascinait. Non pas pour ses attraits physiques, mais surtout parce que je me dis, waouh, il est méchant, mais c'est pas un sorcier. Il a pas des pouvoirs, mais je sais pas pourquoi il est méchant. Et pourquoi est-ce que voilà, c'était la première fois qu'on voyait un monstre gentil et le beau gosse du village méchant. Donc c'était très intéressant à montrer aux enfants, je trouve. Et en fait, quand j'ai vu Le Roi Lion, la version du Théâtre Mogador, enfin la version Broadway du Roi Lion au Théâtre Mogador en 2007, là j'ai vraiment eu un déclic en me disant « Ah mais c'est ça que je veux faire !» Et un jour, je vais être sur scène, je vais être sur cette scène au Théâtre Mogador, cette scène mythique, à faire un Disney. Et la vie me l'a apporté. J'ai pu faire le personnage de Gaston dans La Belle et la Bête au Théâtre Mogador, version Disney. Et c'était tellement beau, il y avait tellement toutes les étoiles alignées que le réalisateur du film La Belle et la Bête avec Emma Watson, le film qui n'était pas encore fait à l'époque, était venu voir sur scène, et quand il a casté le film, il m'a proposé un rôle dans le film tellement il avait aimé la comédie musicale.
J'en ai plein la maison.
un des sbires de Gaston et Dufou, c'est bien ça ?
C'est exactement ça,
et,
oui.
Et alors, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais il me semble que tu es, t'es pas tout seul, vous êtes deux ou trois, tu es, je crois, le premier personnage Disney travesti dans un film, mais pour des raisons... Il me semble qu'à un moment, tu es travesti pendant une des fêtes.
Oui, mais le débat va au-delà de ça, en fait.
On peut ne pas le truc. Je me suis posé la question en me rappelant du truc. Il y a eu un moment où Disney a... Là, on en parle comme ça, je le mettrai même pas, si tu veux. Mais
je pense que c'est important de le mettre.
Il y a eu un moment où Disney a essayé d'incorporer petit à petit... une dimension un peu plus moderne.
Et LGBT.
Et complètement LGBT. Il y a des personnages de femmes qui s'embrassent dans Star Wars. Il y a, voilà. Et je crois qu'avant avant La Belle et la Bête, je ne crois pas avoir vu de personnages travestis dans... Mais autrement que pour le... Peut-être qu'il y en avait, mais pour la bouffonnade.
Exactement.
Est-ce que c'est le cas, là, dans, du coup, dans cette scène-là, ou est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de sensible, ou c'était le début de cette mise un petit peu à la page moderne, sauf en Chine.
Je pense que ça a toujours existé chez Disney, parce que en fait, ça a toujours été assez progressiste, Disney, sur plein de choses. Et puis, nous, on a découvert les dessins animés Disney fin 80, début 90. Donc, en fait, il faut replacer ça dans un contexte. C'était pas la même époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, comme tu l'as si bien dit, que en fait, il y a plein de personnages dans les sagas qu'ils ont récupérés, les Marvel, les Star Wars, même les Pixar. Mm-hmm. Y a plein de personnages de toute origine, de toute ethnie, de toute sexualité. En fait, Disney, je trouve ça formidable. C'est pour ça que j'arrive pas beaucoup à dire du mal de Disney, parce que en fait, ils ont cette responsabilité, ils ont ce pouvoir et ils l'utilisent bien. En fait, contrairement à d'autres méga entreprises, d'autres multinationales, Disney sait faire ça. Quand j'ai tourné La Belle et la Bête, le réalisateur Bill Condon m'avait vu sur scène dans le personnage de Gaston. Et quand on a fait une lecture, tout le cast réuni à Londres, il m'avait dit « Je te réserve une surprise ». Et donc, à la fin du script, je vois que c'est mon personnage, comme dans le dessin animé, mon personnage est avalé par l'armoire, par le personnage de l'armoire, Madame de la Grande Bouche, qui est une chanteuse lyrique. Et dans le dessin animé, le personnage sort et il est complètement effrayé d'être habillé en femme, en fait. Donc c'est un gag, c'est un gag pour un long métrage d'animation. Et puis, somme toute, le film sort en 91, ça fait rire tout le monde.
C'est une bouffonnerie.
Voilà. C'est une bouffonnerie et ça passe. Et on rigole d'un homme qui est habillé en femme.
Mmh. Ouais, comme dans Harry Potter, quand il y a Rogue qui sort de l'armoire.
Exactement, voilà, ce genre de truc-là. Ouais, tout à fait, ouais. Voilà, on reste dans un cadre très familial pour les enfants. Et puis là, en fait, la dimension du film, en fait, je trouve que c'est très bien joué de la part et de Bill Condon et du studio de ne pas avoir coupé ça. C'est de se dire, ce serait sympa qu'en fait les trois hommes de main de Gaston, pas un seul, mais les trois hommes de main soient avalés par l'armoire, rejetés, habillés et travestis en femmes. T'en as deux qui prennent peur, comme dans le dessin animé, mais t'en as un qui aime bien ça, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fin, parce qu'en fait, on en avait parlé et il s'agissait là de pas du tout, en fait, en faire un personnage. D'un coup, c'était un coming out. Pas du tout. C'est juste de montrer, tiens, il y a un personnage, en fait, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est qu'un homme est un homme, il sait pas ce que c'est que d'être habillé en femme. Et d'un coup, en fait, il aime bien. Donc, ça normalise un petit peu le truc, ça éduque ce que j'ai trouvé très fin. Et en plus, en fait, il y a aussi ce sujet autour du personnage du fou, l'acolyte de Gaston.
Qui est à peine ambigu, là, du coup, dans la mise en scène.
Dans la version live action, il est...
Pas du tout ambigu.
Il est on l'imagine mal avec une nana, on voit très bien qu'il est amoureux de Gaston. Mais en fait, c'est plein de questions que toute la fanbase Disney, en fait, se posait depuis La Belle et la Bête de 91, en fait. Tout le monde se disait, mais le fou, pourquoi il est avec Gaston? Il se prend que des marrons, il est maltraité. En fait, il est amoureux de Gaston.
Bah oui.
Il
est fasciné.
Il est fasciné par Gaston. Il a une fascination qui est un peu borderline par Gaston. Il lui fait une chanson dans la taverne et tout. Il arrête pas de faire une ode à ses muscles, à son corps et tout. Bon, les gars, on va pas se mentir, il est homosexuel, le fou. Mais en fait, on n'en parlait pas parce qu'on s'en fout, c'était un dessin animé. Et puis là, j'ai trouvé ça intelligent et assez, assez courageux, en fait, quand on fait une version live action, de dire, bah, tu sais quoi, ce côté-là, on va carrément l'exploiter parce que c'est un film, en fait. Il faut, comme, comme Luke Evans n'est pas bodybuildé en Gaston, ben, en fait, on a essayé, enfin, c'est pas moi le directeur artistique, la production a essayé, en fait, de ramener ça à une espèce de... pas de normalité, de ramener ça à une réalité, en fait, une réalité historique, mais aussi dans les personnages, parce que ce sont des humains qui jouent, et en fait, bah, le fou, il peut pas se prendre des marrons par Gaston pendant 2 heures de film.
Oui, bien sûr.
Mais autant exploiter ce côté un petit peu homosexuel, il faut dire ce qui est. En fait, le fou est complètement dingue de Gaston, et comme Gaston, en fait, le laisse complètement tomber à la fin, en fait, il se rend compte que Gaston est un monstre, et en fait, il va vers, et le personnage du fou va vers le garçon qui aime bien finalement être habillé en fille, et c'est comme ça qu'on finit ensemble au mariage. Cette scène, c'est pas tellement la scène où on voit que le fou est amoureux de Gaston, c'est pas tellement la scène où on voit que je suis habillé en fille, c'est la scène où on se retrouve avec le fou au mariage, et on finit par danser ensemble avec un regard très équivoque, et c'est ça qui a donné lieu dans des pays à une interdiction, un remontage du film.
Ouais, une gêne. Enfin...
Une gêne, parce que ça mettait plein de gouvernements face, à mon avis, face à une limite de « non, il faut pas montrer que c'est normal 2 hommes ensemble ». Moi, je trouve ça très courageux parce que encore Disney continue de faire ça, de faire passer des normalités. Récemment, je fais juste une parenthèse parce que sinon après je m'égare parce que c'est un débat qui me passionne. Et j'ai trouvé ça formidable dans la nouvelle adaptation de Buzz l'éclair. C'est pas du tout un spoil, mais qu'en fait il y a un personnage de femme qui en fait soit ouvertement homosexuel. Elle se marie avec sa concubine en fait. Et elle adopte même un enfant. Enfin, j'ai trouvé ça dingue, quoi, que dans le nouveau Buzz l'éclair, il y ait ça. Et je me dis, OK, on fait pas un focus là-dessus. C'est juste une partie du film. Et c'est histoire de normaliser une nouvelle génération. Et moi, je trouve ça formidable parce que ça fait en sorte que les gamins, ils vont voir Buzz l'éclair et peut-être qu'ils se moqueront pas de leurs camarades de classe qui sont...
Oui, parce que c'est juste la réalité, en fait.
C'est la réalité d'aujourd'hui. Et moi, je trouve ça génial. Et je suis fier d'y avoir participé.
Eh ben, c'est très bien. Bah, moi, je ne te connaissais pas quand j'ai vu La Belle et la Bête. Voilà. Donc, je me rappelle avoir été... cette scène dont tu parles là, je me rappelle avoir été interloqué, mais pas de manière négative. Hein. Au contraire, je dis, c'est bien. Je me suis juste dit, ok, cool.
Ouais,
c'est bien
qu'ils
s'y mettent. Enfin, c'est bien
ça sert à rien de faire un focus là-dessus.
C'est pas du washing, c'est pas du...
Non, c'est ça.
Ils cherchent pas à se donner une bonne conscience, c'est juste que... Ben voilà, ça fait partie de la réalité et ça marche, ça fonctionne comme ça. Et en plus, ça clôt la caractérisation du personnage du fou d'une manière qui est particulièrement satisfaisante. Et...
À partir du moment où c'est élégant, je veux dire, il y a tout qui passe à l'écran. Mmh. Et puis, sachant que quand même, le réalisateur avait fait une déclaration à un magazine anglais le jour de la première et j'étais à Los Angeles. Et tout de suite, Disney m'avait dit, bon, tu vas aller sur le tapis rouge, tu vas répondre à des questions aux journalistes. Mais n'insiste pas trop sur l'aspect homosexuel parce que ça peut nous porter préjudice, même s'il assume, c'est pas la question, c'est juste genre, ok, il voulait pas que ça en fasse tout un aspect promotionnel, marketing et tout, genre essaye de botter un peu en touche, tu parles, j'ai posé un pied sur le tapis rouge, c'est la première question qu'on m'a posée.
Bon après t'en es sorti.
C'est de bonne guerre.
Voilà, et puis... Là maintenant, on n'en parle plus. Donc,
Et puis, en fait, moi, je trouve que c'est un levier formidable quand on dit, genre, mais qu'est-ce que ça vous fait ? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça ? Que c'est la première fois qu'on montre ça à l'écran ? Ouais, c'est peut-être la première fois qu'on montre à l'écran Emma Watson qui tombe amoureuse d'une boule de poils aussi. Donc, qu'est-ce qui vous choque le plus au final ?
Oui, c'est pas faux.
Bah ouais.
Alors, du coup, je sais pas si je vais tout garder. Gaston et tout. Non, mais c'était intéressant. Je voulais te poser la question, en tout cas, comme ça. Alors, du coup, les actualités, c'est bon. Alors, le dessin animé. Alexis, alors, je reviens vers toi. Le dessin animé Aladdin, pour toi, qu'est-ce que ça représente ?
Comme je disais tout à l'heure, en général, il y a 4-5 dessins animés qui sont une vraie Madeleine de Proust. Moi, je suis né en 89, ce qui fait qu'avec mon grand frère et ma grande sœur, en fait, on était souvent scotchés les mercredis et samedis, plutôt les dimanches, devant nos cassettes. Les cassettes Disney, c'était vraiment un événement, et à chaque fois qu'on regardait un dessin animé et tout. Donc, il y a La Belle et la Bête, Le Roi Lion, La Petite Sirène et Aladdin. Et Aladdin, en particulier, vraiment, Aladdin et La Belle et la Bête, ces deux cassettes ont été bousillées tellement on les rembobinait. Ouais, à l'époque, pour les plus jeunes, on rembobinait des cassettes, pour ceux qui ne connaissent même pas le DVD. Et Aladdin en particulier, parce que musicalement, je trouve que c'est différent de La Belle et la Bête, parce que c'est mon score, enfin, ma partition préférée de Menken, La Belle et la Bête, mais Aladdin, il a un côté épique et Broadway que n'ont aucun autre dessin animé Disney, à mon sens. Hercule un peu, peut-être, mais c'est très marqué, mais... Si t'écoutes Je suis ton meilleur ami ou Prince Ali, mais t'as l'impression de voir des confettis partout. T'es au l'âge d'or de Broadway, t'es confettis partout. C'est 42nd Street d'un coup, c'est Chorus Line, c'est énorme. Ouais. C'est ça qui m'a énormément plu, le personnage d'Aladin et puis du génie qui me faisait hurler de rire. Donc c'est vraiment toute une partie de l'enfance, Aladin, pour moi.
Et alors, on en a parlé, il y a ta chanson d'audition qui vient d'Aladin.
Alors, oui, Prince Ali, c'est une chanson que j'utilise pour les auditions. Alors, attention, ça dépend. Ça dépend de quel personnage, ça dépend pour quel style de musique. Il y a des spectacles qui sont plutôt pop où je ne vais pas utiliser Prince Ali. Mais pour la petite histoire. Enfin, pour la petite histoire, genre.
La grande histoire.
N'importe quoi.
Quand même.
Mais oui, bon, pour l'anecdote, voilà. quand ils castaient pour La Belle et la Bête, Stage Entertainment, en 2000, oh, malheur, 2013 déjà.
2013, putain. Ouais.
Ils avaient envoyé un avis d'audition en disant voilà, prenez une chanson dans le style, venez avec une chanson libre, partition piano et tout, mais vraiment à l'anglaise. Hein. Chez Stage Entertainment, c'est toujours à l'anglo-saxonne. Il y a un pianiste qui est là, tu viens pas avec ton playback. Et tu viens avec ta partition et choisissez une chanson dans le thème, mais pas La Belle et la Bête. Une chanson libre dans le thème. Et moi, je me suis dit, je veux absolument le rôle de Gaston. Et qu'est-ce qui ressemble vraiment à l'envergure épique de la voix lyrique de Gaston? Et je me suis dit, bah, la version Richard Darbois du génie et la chanson Prince Ali, vraiment parce qu'elle est extraordinaire. Et donc du coup, en fait, je l'ai utilisée et elle m'a vraiment porté chance parce que dès le début, ça je l'ai appris après, j'ai chanté Prince Ali. Donc comme je te le disais, ça ouvre vraiment sur le fait place au prince Ali. Enfin, c'est un truc énorme. Et ensuite, le pom 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 qui correspondait un petit peu à la tessiture de Gaston. Et en fait, après, le directeur musical m'a dit bah, avec cette chanson, dès le début, on savait que ça allait être toi qui allais faire Gaston parce que ça correspondait parfaitement.
Je t'ai proposé de chanter une des chansons retirées du dessin animé Aladdin. Donc cette chanson, c'est Proud of Your Boy, qui est une chanson qui est donc chantée par Aladdin à sa mère. Alors il ne lui chante pas directement à la base dans le script, hein. Il est censé, je crois, lui chanter alors qu'elle dort. Le personnage de la mère d'Aladdin disparaît finalement du cut final. On y reviendra après avec Ego pendant l'émission. Mais du coup, je t'ai demandé donc de chanter cette chanson Proud of Your Boy. Comment est-ce que, avant qu'on l'entende, comment est-ce que tu as dû l'aborder vocalement et techniquement pour la chanter comme si t'étais Aladdin, en fait?
Déjà, je me rappelle à l'époque que je l'avais travaillé quand j'étais sur le tournage de La Belle et la Bête, parce que l'assistant chorégraphe du film était aussi l'assistant chorégraphe de la version du West End à Londres. Et il était venu me voir après une journée de tournage pour me dire, écoute, là on caste, on fait une audition privée, on voit que 5 personnes pour le rôle d'Aladin, est-ce que ça te dirait de venir? Donc en plein mois
de
juillet.
Pour la version anglaise, hein, du coup, c'est là. Alors Aladin a été fait à Broadway en 2014. En 2014, donc à Broadway, c'est une version qui est dingue. Enfin, tous les extraits que j'ai vus sont dingues. Toi, tu l'as vu en vrai. Je suis très jaloux. Et ensuite, il y a aussi eu ensuite une version à Londres un petit peu plus tardive, c'est ça?
Ouais, mais c'est exactement la même version.
C'est la même version, mais pas avec le même casting. Donc, ils avaient besoin d'un nouveau casting.
C'est ça. Et moi, je l'avais vu à Broadway parce qu'en ayant fait La Belle et la Bête à Paris, j'étais invité à aller le voir à New York et j'ai passé une soirée absolument formidable parce qu'en plus j'étais avec le créateur de Gaston, du dessin de Gaston, qui avait créé Jafar aussi, et donc du coup en fait on a fait toute une soirée un petit peu spéciale basée sur le thème de Disney. Enfin bon, j'ai pu voir les acteurs originaux, parler avec eux de mon expérience, de leur expérience, c'était un échange formidable. Et quand j'ai vu le spectacle, je découvrais, je connaissais aucune adaptation, aucune nouvelle chanson. Et j'avais vraiment tiqué sur cette chanson, en me disant oh, « Ah oui, c'est exactement ce qui manque. À ce, s'il manque une chose au personnage d'Aladin dans la version du dessin animé de 92, ouais, c'est une « I wish song ». Parce qu'en fait, il a « Je vole », il a la reprise de « Je vole » où il fait « Voleur, vaut rien ». Il a ce rêve bleu, mais il lui manque une I wish song. Et c'est ça qui donnait le truc vraiment Broadway. Et le Proud of You Boy, je me suis dit genre, oh, là, je pense que... Là, j'ai trouvé une autre chanson d'audition à travailler. C'est pile dans ma tessiture. C'était vraiment, à l'époque, plus mon âge pour jouer à Aladdin. Enfin, c'était... J'avais vraiment adoré cette chanson. Tout de suite, évidemment, j'ai acheté l'album, j'ai téléchargé légalement toutes les instrumentales pour...
Tout est disponible sur YouTube par Menken. Ouais,
il a tout mis sur YouTube. Mmh. Et donc, pour revenir au tournage de La Belle et la Bête, on m'avait proposé ça, et donc j'avais fait une audition privée pour Aladdin, et donc je m'étais retrouvé avec... 4 autres mecs qui passaient pour Aladdin aussi, dont 2 qui ont fini dans le cast pour Aladdin et sa doublure. Et en fait, bon, ça n'a pas marché parce que très vite, on a commencé... Étant français, c'est très dur d'avoir un rôle titulaire à Londres. Et je dis pas que je le méritais et que c'est à cause de ça, mais en fait, dès le deuxième tour, en fait, je suis revenu, j'ai rechanté une paire de fois... et puis très vite ils m'ont dit est-ce que tu sais danser, etc, etc. Et par expérience, quand on te demande tes skills, tes capacités de danse, alors que tu passes pour un rôle principal qui est pas censé méga danser, c'est que tu vas finir un peu dans l'ensemble, ouais, dans le chœur, ce qui est vraiment louable. Et je souhaite à tous et à toutes qui veulent faire ce métier une expérience à Londres, dans un chœur de spectacle, dans l'ensemble de Aladdin, le fantôme de l'opéra, les Misérables, tout ce que vous voulez. Mais moi, en fait, j'avais autre chose qui m'attendait à Paris et j'ai décidé de ne pas aller plus loin aussi dans l'audition pour me consacrer à ce que je devais faire à Paris ensuite.
Et vocalement, du coup, à ce moment-là, le casting te demande une certaine manière de faire. Vous avez une direction artistique vocale, technique, parce que Aladdin, il est jeune, il a quoi ? Il a 16 ans, un truc comme ça, dans l'histoire. Donc, c'est une voix plutôt juvénile, légère, et en même temps, pas facile à chanter, parce que personne n'a 16 ans quand il auditionne pour un rôle. Donc, comment est-ce que tu l'as abordé techniquement, cette chanson, y compris quand tu as dû la chanter maintenant, avec quelques années en plus ? Tu restes beaucoup plus jeune que nous, donc.
Non, mais en fait, je l'ai abordé. En fait, c'est un défaut comme une qualité, je pense, dans ce secteur-là. C'est que moi, je fais beaucoup de mimétisme. Dans le sens où, en fait, si tu me demandes de chanter ce rêve bleu, je vais reprendre la. Dans ma tête, j'ai la version de Paolo Domingo. Mmh. Si tu me demandes de chanter Le monde qui est le mien de Hercule, je vais chanter comme Emmanuel Dalle. Je pourrait difficilement m'en empêcher, en fait. Sauf
ça, ça tombe bien, parce que l'émission Stucom, c'est tout à fait ça, donc parfait. Donc là, du coup, tu t'es basé sur l'interprétation de celui qui a créé le rôle à Broadway.
Ouais, de Adam Jacobs, que j'avais vu plusieurs fois sur YouTube chanter avec Menken. Il y a une vidéo formidable où il chante et Menken l'accompagne. Et je me suis dit, en fait, c'est génial ce qu'il fait, son interprétation est géniale, ses nuances sont bonnes, il est très touchant. Je vais le faire un petit peu avec ma voix à moi, quoi. Et ma voix à moi, elle suggérait aussi que... ma voix à moi, elle suggérait pas mal que, en fait, j'aille chercher dans un timbre qui était un petit peu plus jeune à moi. Et puis, ce genre de voix, quand tu prends, quand t'essayes de t'excuser, quand t'essayes de prendre un truc comme ça, qui est complètement différent que quand t'essayes d'être un petit peu plus assuré, un petit peu plus viril, un petit peu plus mature, où tu prends un autre timbre de voix que j'avais tendance à utiliser un peu pour Gaston.
Your boy, I'll make you proud of your boy. Believe me, baby. bed as I've been, ma, you're in for a pleasant surprise. I've wasted time, I've wasted me. So say I'm slow for my age, a late bloomer, okay, I agree. That I've been one rotten kid, some sun, some pride and some joy. But I'll get over this lousing up, messing up, screwing up times. You'll see, ma, now comes the better part. Someone's gonna make good, cross his stupid heart. Make good and finally make you proud of your boy. Tell me that I've been a louse and a loafer. You won't get a fight here, no, ma'am. Say I'm a gold brick, a goof of no good, but that couldn't be all that I am. Water flows under the bridge, let it pass, let it go. Some wise, I'll do my best. What else can I do? Since I wasn't born perfect like Dad or you, Mom, I will try hard to make you proud of your boy.
Un grand merci vraiment à Alexis pour cet entretien, pour s'être déplacé, pour avoir enregistré. Comme vous le savez, il a également enregistré Le Rêve Bleu avec Lauriane, en tout cas à distance, puisque Lauriane avait déjà enregistré, était déjà venue au studio, c'est apostrophe ST, oh, j'y arriverai pas, c'est apostrophe TUDIO, voilà, ça ne fonctionne toujours pas à l'oral, tant pis. Donc Le Rêve Bleu, enregistré en duo. J'ai bon espoir qu'un jour ils puissent se rencontrer. Le voilà, Le Rêve Bleu, et c'est pas fini.
Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs. Dis-moi, princesse, n'as-tu jamais laissé parler ton cœur? Je vais ouvrir tes yeux aux délices et aux merveilles de ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur où personne ne nous dit, c'est interdit de croire encore au bonheur.
Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi, c'est fabuleux quand dans les cieux nous partageons ce rêve bleu à deux.
Nous faisons ce rêve bleu. C'est merveilleux.
Je suis montée trop haut, allée trop loin. Je ne peux plus retourner.
Un rêve.
Je viens sur les chevaux du vent
vers les horizons du bonheur. Naviguons dans le temps infiniment et vivons ce rêve merveilleux. Ce rêve.
Ce rêve.
Au mille nuits,
au mille nuits.
Et je disais, c'est pas fini, puisque Alexis a également contribué à la chanson finale des auditeurs. Voilà un petit bout de son Prince Ali. Faites place.
Faites place au Prince Ali. Quelle grâce, le Prince Ali. Bande de vénards, dégagez le bazar. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Venez applaudir, acclamez la superstar. Fêtez ce grand jour, clochette et tambour. Venez adorer l'idole Prince Ali, sa seigneurie Ali Ababa. À genoux, prosternez-vous, soyez ravis. Pas de panique, on se calme. Criez vive Ali Salam. Venez voir le plus beau spectacle d'Arabie. Prince Ali, plus fort que lui, je n'en connais pas. Qui vous porte d'Abu Dhabi à vos bras. Il a vaincu une armée,
tout seul avec son épée.
La terreur des ennemis, c'est Prince Ali.
Merci à tous d'avoir écouté ce petit bonus. Je vous dis à très bientôt pour les détails pour le prochain Stucom. Ciao. Attends, j'ai oublié un truc. Je mets dans la description de cet épisode les liens vidéo vers les deux extraits de comédie musicale que vous avez écoutés, à savoir Gaston, la scène de la taverne et You're the One That I Want, qui avait été joué lors d'une émission de radio, je crois, mais qui a été filmé. The Grease.